Bonjour, vous êtes à Paysage littéraire, à l'antenne de Radio Victoria 107,9 FM. Cette fois-ci, à l'émission de Paysage littéraire, je vous présente une auteure, Alina Dumitrescu, qui a écrit « Le cimetière des abeilles ». Je vais remercier, entre autres, la FRACB qui m'a permis de découvrir cet auteur d'origine roumaine au club de lecture qui a été mis sur pied par la FRACB. Et j'aimerais remercier particulièrement Martin Bouchard, qui est l'instigateur du club littéraire, du club de lecture, pardon, de l'AFRACB, et aussi, effectivement, la direction générale de l'organisme. J'ai eu l'occasion d'assister et de participer à notre rencontre avec l'auteur même, une rencontre virtuelle, évidemment, qui a eu lieu tout récemment, et j'aimerais vous présenter quelques passages, du moins deux passages du livre « Le cimetière des abeilles ». Je me prépare pour la grande fête de ma vie. Il faut être beau, propre, tout neuf pour l'Occident. Il faut être à la hauteur, montrer patte blanche, mériter son nouveau pays. Il faut être plus beau, plus propre que les légitimes, les enfants de sang. Dans les orphelinats aussi, on choisit les plus beaux. Dans la Roumanie de Ceausescu, il paraît même qu'on a créé des orphelinats où on apprend aux enfants à parler directement en français pour les vendre en adoption à l'étranger. J'ai toujours voulu aller à Paris, voyager, étudier, m'illustrer. Samuel Rosentok l'a bien fait, lui. Pendant mes années de lycée, je fréquentais un cénacle littéraire artistique nommé d'après lui, fils de la ville, le cénacle Tristan Tzara. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver au sujet des artistes roumains qui ont fait leurs études à Paris. Sur les scientifiques et les autres, les récits sont plus avares de détails. J'ai une collection de « En français » dans le texte. Je connais par cœur des passages entiers qui décrivent les ombres des cathédrales, la Sorbonne, les quais de la Seine et les bouquinistes, la vie de Bohème, Montparnasse, le café de Flore. Des chansons aussi par les plus français des Français, Aznavour, Moustaki, Ferrat et Gainsbourg. Les frontières sont fermées, mais j'irai tout de même dans un pays où on parle français. Et une fois dehors, plus de frontières. Vertige. Sans les frontières, peur de tomber dans le grand abîme horizontal. Je fais beaucoup d'efforts pour me débarrasser de tout ce qui peut ressembler à un comportement d'Européenne de l'Est, comme d'autres se dégrossissent de leur provincialisme, ma province de l'Est. Je récite des poèmes en français et je relis avec étonnement et délectation le verdict du ministère de l'Immigration du Québec au Canada qui m'a écrit de Rome. Après l'étude positive de votre dossier, nous vous accordons à vous et à l'enfant le statut de résident permanent. Je suis folle de joie. On nous veut, on nous accepte. Ils ne nous ont même pas vus encore. Ni nous, ni nos vêtements. Je dois vraiment être digne de cette confiance. Je me dois d'être à la hauteur. Je redouble d'efforts pour le français. L'enfant, c'est quelques mots, quelques comptines et chansons. Il répète avec moi, mais ne parle pas beaucoup dans aucune langue. Il n'a pas encore 2 ans. Mais la formulation, l'étude positive, me laisse perplexe. Je sens la menace, toute proche. Je me concentre pour bien détacher les mots. L'étude positive reste collée dans mon esprit à la possibilité et à la hantise de l'étude négative. Le plus grand étonnement vient de ce qu'on appelle le résultat dans l'action même d'étudier le dossier. L'étude a été bienveillante, positive. Je trouve la formulation très élégante et je la contemple souvent avec délice. Tout juste après la lecture de la lettre, le voile de lumière refait son apparition et s'installe à demeure. Les clés, les dés sont jetés. Les valises se sont fermées après des mois de valses hésitations. Quel objet mérite d'y prendre place plutôt que d'en être retiré? Que laisser chez mes parents? Dans tout ce branle-bas, les dictionnaires n'ont jamais quitté les valises, tout comme l'abécédaire et l'histoire de l'Égypte antique. Confusément, le mot « Égypte » fait son effet. Le peuple juif a erré pendant 40 ans dans le désert. Des miracles se sont produits. On a rechigné, blasphémé, mais à la fin de ce périple, moitié bénédiction, moitié punition, les Juifs ont eu leur Canaan. Il y coulait du lait et du miel. Un autre livre qui n'a jamais quitté les valises, le livre de recettes de la mère. Sans lui, je craignais la faim éternelle pour moi et pour toute la famille. Peu n'importe quel livre de recettes, pas une édition moderne, revue et augmentée. Non. Le livre de recettes qu'on lui a offert à son mariage et qui a accompagné toute mon enfance. Tous les repas de fête, les soupes de convalescence, les blagues autour des plats ratés, les anniversaires, les naissances et les décès dans leur version alimentaire étaient enfermés dans ce livre. Dans le livre de recettes de ma mère, toutes les saisons aussi, de préparation des conserves. Alchimiste en chef, elle présidait jour et nuit aux transformations extraordinaires des poivrons, aubergines et tomates. Les coings, les griottes, les myrtilles se soumettaient à sa volonté et se laissaient mettre en pot. Avec les bons de rationnement, 1 kilo de sucre par personne par mois, 1 litre d'huile par adulte par mois, préparer des conserves tenait du miracle et du sacrifice. Dans les mois qui précédaient les conserves, Nos cafés étaient bu sans joie ni sucre. Les cristaux précieux s'entassaient dans les chambres froides, à l'abri des yeux envieux et des fourmis. Avec le livre de recettes de ma mère, espèce de gris-gris culinaire, je me suis prémuni contre la famine. Avec les dictionnaires, contre l'oubli. La vie, la nouvelle vie, peut commencer. Il fut une nuit et il fut un matin. Voilà, vous avez entendu le premier segment du livre de l'auteur Alina Dumitrescu, Le cimetière des abeilles. Évidemment, c'est un livre, je voulais le mentionner au début, c'est un livre qui tient, dans un mot, l'exil, l'immigration, le dépaysement. Nous allons faire une courte pause et nous allons revenir pour le segment 2 de l'émission Paysages littéraires. À bientôt. La musique populaire.
Le destin écrit dans mes pans. La vie elle est courte, elle sait à la langue. Je n'ai oublié à l'avant de l'avion. Je t'ai déjà vu, est-ce qu'on se connaît? C'est à Lisbonne aux îles de Madeleine. Faire bonne impression comme Claude Monet. No say, no, no, no problem. Voyez le fleuve, c'est mes fins cochines de docks et de bay. Yeah, you call all this, le cocktail, le papel, l'effet, le pollen. Les grouillages, je dis qu'ils voyaient le sommet. C'est le nouvel an tous les vendredis. Allez, on va marcher comme la tour de Pise. Danse sur le plafond, chante du Céline. Tu sais très bien ce qu'il dit. Je vois la vie en rosé. Donde está yo, no sé. Je vois la vie en rosé. Mon verre est plein à moitié. Donde está yo, no sé. Meu corazón, meu Cléopâtre. Le compte banque, il est au Panama. T'as une question, mets-le sur la carte. J'ai l'anguille, Jean-Paul, c'est l'ami à ça. J'ai jamais sur le net, je ne suis pas la cise. Yeah, donne-moi du vino et je t'écris un livre. Je le paye, je l'ai dit et je l'ai fait pour le vivre. Ils le font pour le follow, ils le font pour suivre. Y'avait le resto, Michelin et 6 étoiles. Une chorale par Grégory Charles. Le flash pour la mémoire, on n'a plus rien à prévoir. Pas de téléphone, non, non, je ne veux pas d'histoire. C'est le nouvel an tous les vendredis. Allez, on va marcher comme la tour de Pise. Danse sur le plafond, chante du Céline. Je sais très bien ce qu'il dit. Je vois la vie en rosé. Donde está yo, no sé.
Je disais plus tôt au début de l'émission que l'auteur du livre Le cimetière des abeilles, de l'auteur Alina Dumitrescu, j'ai eu l'occasion de lui parler, de discuter de son livre, accompagné de d'autres participants à l'émission du club de lecture de l'AFRACB, qui a lieu une fois par mois. Et aussi, je n'avais pas mentionné, les livres sont obtenus, peuvent être lus de façon virtuelle, gratuitement. Nous les obtenons par la Bibliothèque des Amériques et auquel vous pouvez vous inscrire. Et c'est de cette façon-là que nous avons eu cet auteur comme invité. Et c'est toute une différence de présenter un livre ici à Radio Victoria, à l'émission Paysages littéraires. Après avoir rencontré l'auteur même et avoir discuté de son livre. Donc, je poursuis en deuxième partie. Son livre, de la manière qu'il est construit, Et nous arrivons au jour 7, qui est le dernier, et dont le titre du chapitre est « Jour 7 et tous les autres ». Il y aura toujours un avant et un après selon cet interminable voyage en avion avec l'enfant. AV, en parenthèse, avant voyage, et AV, après voyage. Un peu difficile de croire que c'est si différent. Avant voyage et après voyage, c'est du pareil au même. J'écris pour la dernière fois le mois en chiffres romains 25-11-1988. Sauf, bien entendu, pour dater les lettres que j'envoie au pays. Par délicatesse pour ceux qui écrivent toujours les dates en chiffres romains. Ils n'ont pas appris que les chiffres romains sont lettres mortes. Ce n'est pas le genre d'information qu'on obtient. Ce n'est pas le genre d'information qu'on obtient en écoutant Radio Europa, Libera, ni Vocea Americi. L'enfant, avec ses Legos, ses dessins animés et ses céréales colorées, se fait inviter chez des amis. Nous, les parents, jamais. On émigre toujours pour l'enfant. C'est ce qu'on dit. On cherche ailleurs l'avenir radieux qu'on nous a fait miroiter, pour lequel on a offert, pour lequel on a souffert, planté des arbres, gagné des prix, tenu le drapeau, tiré dans les cibles, fait ses devoirs à la lumière des bougies. Cet avenir radieux pour lequel nous avons fait notre autocritique. Il me semble logique de rencontrer quelques inconvénients avant d'y accéder. Et je l'accepte encore une fois, pour moi, pas pour l'enfant. Les cafards dans l'appartement sont anecdotiques. Il doit y avoir à Paris aussi. Il doit y en avoir à Paris aussi. Je l'ai lu quelque part. Des blattes et des cafards dans les chambres de bonne mansardées que les étudiants étrangers louent. Je n'en ai jamais vu auparavant puisque je n'ai pas assez voyagé forcément. Les cafards, le froid, le bruit, l'exiguïté font partie d'une certaine bohème, non? Je suis sorti durant de ma lignée. Je suis aussi sorti de mon continent. La généalogie grince fait des contorsions. Transporter clandestinement des graines qui, le moment venu, explosent avec fracas. Chaque printemps, au mois d'avril, le père me téléphone. Semé fachi moaka esti bene. Team sunat sati spun se inflori lila ukul. Ça signifie « Comment vas-tu, petit hôte? Je t'ai appelé pour te dire que ton lilas est en fleur. » Aux alentours de Pâques, de la Pâque orthodoxe, le lilas fait des siennes. Les gens de la police secrète qui écoutent nos conversations téléphoniques, demeurent interdits. Il convoque ensuite le père. Il doit expliquer cette histoire de lilas blanc. Est-ce un code? Un signal? Radio Europa Libera l'a déjà utilisé auparavant. Non, dit mon père, ma fille aime beaucoup ce lilas. Elle est folle. Pourquoi est-elle partie si loin de son arbre alors? Elle voulait étudier à Paris, voyager, parler français. À Paris? qui lui a mis en tête cette idée subversive? Les livres, les lectures, les tableaux. Mais elle ne vit pas à Paris, ricane-t-il. Elle parle français, dit le père, avant de se taire, pour ne pas les provoquer. Ce sont les mêmes, ceux qui vous embarquent à la suite de dénonciations sommaires, ceux qui ont exigé avant de délivrer le passeport des tas de documents qui attestaient la non-possession de biens sur le territoire de la République socialiste. Des documents qui n'existaient pas pour des biens inexistants. La blague voulait que si tu parles contre le régime politique en place, on t'embarque. Si tu ne parles pas contre le régime, on t'embarque aussi. La faute? Flagrant des intérêts envers le destin politique du pays. Encore et toujours, la bonne blague susurrée en secret à l'oreille. Les soirées de vin et de brume retardent la révolution. Oui, ceux qui convoquent le père sont les mêmes à l'identique. Ce sont les mêmes et ils semblent immortels. Le lilas blanc me manque chaque printemps et la plaque en émail bleu et blanc sur la maison, le numéro 63 aussi. Je voulais emporter la plaque avec le numéro de la maison en partant définitivement du pays. Les parents ont refusé catégoriquement. Dans toute la rue, dans toute la ville, la maison disposait de la même plaque, seul le numéro différait. Bien entendu, on ne construisait plus de maisons, que des immeubles d'appartements. L'atelier qui faisait les plaques des numéros de maisons avait brûlé il y a longtemps. La plaque de la maison, la petite plaque en émail, c'est la seule chose que les parents m'aient jamais refusée. L'identité de la maison, leur fierté de propriétaire entrée dans leur rang. L'enlever aurait été vu comme une dégradation sur la place publique. L'opprobre. Oui, l'opprobre. Et tous les grades, les médailles arrachées et piétinées. C'est pourquoi je n'ai pas dans mes bagages la petite plaque de la maison. Elle est restée avec les parents sur la façade borgne, petit carré d'émail bombé, bleu et blanc. On y lit toujours 63. Pendant mon sommeil, ceux qui savent comment faire tourner la terre font le nécessaire. Seulement la nuit passée, un bris technique ou une erreur surhumaine a dû se produire. Et hop, la terre a tremblé. Depuis la nuit passée, d'autres continents se dessinent. Et le septième jour, il se reposa de toute son œuvre. C'était il y a 28 ans. Donc, je vous ai présenté cet auteur, Aline Dumitrescu, Le cimetière des abeilles, à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM. À la prochaine.